Denis Vasse est à la fois médecin, jésuite et psychanalyste. Formé à l'école de Jacques Lacan, il s'est fait connaître par ses ouvrages « Le temps du désir » et « L'ombélique et la voix », où il apparaît déjà à 44 ans comme l'un des maîtres de la psychanalyse actuelle. Denis Vasse nous entretient surtout aujourd'hui des problèmes des parents face à leurs enfants et en particulier de ce que c'est que d'être père.
Denis Vasse, vous dites souvent, vous répétez même que il est important que l'enfant soit désiré par ses parents. J'aimerais que nous analysions un peu, enfin, que vous nous expliquiez ce que c'est que ce désir des parents, ce désir des parents pour un enfant. Est-ce que c'est différent d'abord de l'amour que naturellement, il me semble, tout parent porte à son enfant?
Oui, c'est... Le désir de l'enfant est très différent de ce qu'on appelle l'amour que naturellement des parents portent à leurs enfants. Parce que l'amour n'est pas naturel. L'amour n'est pas naturel si on lui donne son sens véritable. L'amour n'est pas naturel en ce sens que tout homme qui fait l'expérience de l'amour a fait l'expérience, parallèlement, de la disparition du sentiment d'aimer. Ce qu'on appelle l'amour, c'est le sentiment d'aimer. Et l'amour en tant que tel, l'amour qui fait vivre, n'est pas du tout réductible au sentiment d'aimer.
Et alors le désir ?
Alors,
pas justement...
le désir, quand j'emploie ce mot, c'est toujours du désir inconscient qu'il s'agit, c'est-à-dire du désir en tant que... qu'il est le lieu dans lequel nous sommes enracinés à travers l'inconscient comme sujet.
Mais pourquoi un homme, une femme désire-t-il un enfant?
Ben ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est parce qu'ils sont profondément mus. Parce que je crois être personnellement, parce que j'ai la foi, la parole créatrice, mais c'est parce qu'ils sont les agents dans et à travers lesquels passe la vie qui vient au jour, ce qui se dit de la vie. N'est-ce pas ? Jamais, je vous le disais tout à l'heure, mais jamais sur le divan, quel que soit le nombre d'années que quelqu'un y reste, vous n'entendrez quelqu'un revendiquer comme étant sien, le fait qu'il soit père ou mère. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui échappe dans la paternité et dans la maternité. C'est d'ailleurs pour ça que l'on dit, n'est-ce pas, que l'on parle dans notre jargon, de métaphore paternelle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le père représente la parole qui fait vivre, et c'est dans la mesure où un enfant, par exemple, à rencontrer quelqu'un pour qui ce passage de la parole, cette inscription dans la parole a été possible pour lui, c'est dans cette mesure-là que ce quelqu'un est père pour lui.
Concrètement, vous pourriez me donner un exemple?
Ça ne veut pas, autrement dit, si vous voulez, je fais une différence entre les géniteurs et le père. Le géniteur n'est pas forcément le père d'un enfant. Et c'est même un drame, puisqu'il y a des parents, enfin des enfants qui vous disent « Mes parents m'ont donné la vie, mais c'est tout ce qu'ils m'ont donné. »
Mais il me semble que c'est quand même extraordinaire de donner la vie, précisément. Qu'est-ce qu'on peut vous voir de plus ?
Non, parce que la vie humaine, ce qui est l'extraordinaire de la vie humaine, c'est qu'elle se donne dans ce qui fait sens pour celui qui la vit. Quelqu'un qui a la vie, et pour lequel, d'ailleurs tous les suicidaires vous le diront, et pour lequel la vie n'a pas de sens, c'est la souffrance ultime. Donc vous voyez bien que la vie humaine, c'est pas simplement donner la vie dans un corps biologique, c'est donner une vie qui trouve son sens dans le fait même que ce sujet parle et qu'il s'interroge sur sa propre origine.
Alors je reprends ma question. dans ce contexte-là, que veut dire désirer un enfant? Ça veut dire finalement le vouloir autre que soi, le vouloir détaché.
Tout à fait. C'est certainement le vouloir autre que soi, ce à quoi un enfant vous amène nécessairement. Il y a, n'est-ce pas, dans toute filiation, contrairement à ce qu'on croit, le processus de l'adoption de l'enfant est aussi important que le fait de lui avoir donné un corps. Tout parent a à adopter son enfant. Et il l'a adopté d'autant plus que c'est lui qui l'a mis au monde.
C'est plus difficile.
Et c'est plus difficile parce que là, c'est le jeu proprement du sens humain qui se manifeste.
Prenons un problème concret, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui vont dire voilà, je suis enceinte, mais je vais me faire avorter parce que cet enfant-là, c'est un accident, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas désiré. Comment vous réagissez?
Ce n'est pas forcément parce qu'elle dit, ce n'est pas forcément parce qu'une femme dit qu'elle n'a pas désiré un enfant qu'elle ne l'a pas désiré vraiment. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'elle dit. Ça n'est pas forcément ce qui agit en elle. Elle peut, pour des raisons diverses et imaginaires, lutter contre son propre désir d'avoir un enfant. Et c'est souvent de cela qu'il s'agit. Parce que nous luttons, parce que je crois que c'est ce qui nous ouvre à une certaine liberté, nous, dans la mesure où nous sommes, où nous cherchons à nous réduire à une image de nous-mêmes, nous luttons constamment contre le désir qui est en nous et qui nous en déloge, au même titre que la parole, ce dont je parlais tout à l'heure.
Mais vous-même, comme psychanalyste, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous êtes un peu le père des gens qui viennent vous voir?
C'est vrai que je ne dirais pas que je suis le père, je m'assure, je m'aime la compte, car ce serait rejoindre un imaginaire psychothérapeutique qui, à mon avis, est très pervertissant et très mauvais. Ce qui est vrai, c'est que la technique et le travail dans lequel je suis embarqué avec ces gens-là, fait que quelque chose de ce que nous appelons la métaphore paternelle va pouvoir jouer dans le langage. La métaphore paternelle, c'est ce qui fait qu'à travers son propre imaginaire et à travers son propre discours, quelqu'un est référé à la parole qui le nomme, à ce que Lacan appelle le nom du père.
Mais la parole qu'il nomme, est-ce qu'à un certain moment, c'est pas vous, ça? Est-ce que c'est pas vous qui lui dites finalement « tu es toi »
Non, ça n'est pas moi. Moi, je l'entends, enfin, dans la mesure où je suis appuyé sur mon propre désir, je l'entends se dépêtrer à travers sa souffrance et à travers ses symptômes, mais ce qui parle en lui de lui, c'est en lui que ça parle.
Ce qui parle en lui de lui, mais là, je comprends plus, parce que je me dis, ce qui parle en lui de lui, ça ne peut pas être quelque chose d'autre, finalement. Ça ne peut être que quelque chose de très, très intime, très intérieur.
Justement.
Et le père et l'autre, précisément.
Justement, non, pas du tout. Justement, vous êtes là au cœur du problème. Lacan dit, que, pour définir l'inconscient, il dit que ça parle. Et il dit, à propos de ce rapport de l'inconscient et du sujet, il dit, et c'est ça l'ouverture à la problématique du nom du père, n'est-ce pas? Il dit, quand est-ce qu'un sujet parle vraiment? C'est quand ça parle de lui au lieu de l'autre. C'est-à-dire que quand en lui, le désir désigne le sujet qui a à advenir, n'est-ce pas? Au lieu de l'autre, ça parle en même temps de lui et de l'autre. Et c'est ça qui constitue quelqu'un dans sa propre parole.
Alors quand je désire un enfant,
ça peut
est-ce que c'est moi que je désire?
Ça peut être vous, et alors là, ça devient catastrophique. Et c'est toujours nécessairement un petit peu vous, c'est-à-dire tout le rapport des parents et des enfants. Les parents ont toujours à se déprendre de l'image d'eux-mêmes qu'ils ont projetée sur leurs enfants pour qu'apparaisse, et c'est ça l'adoption, l'enfant qui doit advenir.
L'enfant qui doit advenir, mais cet enfant doit advenir perpétuellement.
Donc perpétuellement.
Le désir peut-être presque a posteriori, si on peut dire.
Il est a posteriori et a priori.
Mais enfin, est-ce que, par exemple, je ne pourrais pas avoir eu un enfant, je veux dire, enfin, une femme a un enfant par accident, je reprends cet exemple, n'est-ce pas? L'enfant, une femme par accident, enfin, elle a fait l'amour, etc. Et puis, le désir advient après.
Nous ne croyons pas, nous, que les enfants... Alors, quand les enfants adviennent par accident, c'est que, si vous voulez, la femme ne savait pas, et c'est tout à fait différent, qu'elle désirait un enfant. et on ne sait pas ce désir profond et inconscient qui nous constitue, qui nous tient debout. Mais les enfants ne naissent pas par accident. À ce niveau où je parle, évidemment. Oui.
Vous nous avez parlé de cette souffrance que vous rencontrez, n'est-ce pas, ici. Mais est-ce que cette souffrance ne vient pas précisément du fait qu'on ne se sent pas désiré?
Ça peut l'être, mais il y a une grande différence entre ne pas se sentir désiré et n'avoir pas été désiré. Et je crois que c'est ça, le renversement. C'est le moment où le fait même qu'il existe comme sujet parlant dans un rapport à quelqu'un, le fait même de l'existence dans son corps est la preuve que quelqu'un a été désiré. Et la preuve que quelque chose du désir, à l'insu même de ceux qui l'ont conçu, c'est mis en jeu.
Si nous parlions de cette souffrance, comment vous réagissez devant cette souffrance? Vous y êtes confronté tous les jours.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette souffrance?
Elle me parle du sujet et de sa contradiction, de sa division. Je crois que pouvoir être constitué par quelqu'un qui vient vous voir, car c'est une démarche, quand on y réfléchit, absolument incroyable, n'est-ce pas, que quelqu'un vienne vous désigner comme son analyste. Car contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas analyste avec une technique et puis on va faire venir les gens à soi. Non, c'est à chaque fois que ça recommence, vous n'êtes analyste de quelqu'un que dans la mesure où sa démarche même, parfois à son insu, vous constitue vous comme analyste.
Vous êtes continuellement donc créé par l'autre.
Tout à fait.
Dans
je suis
relation.
Constamment posé dans ce lieu de la parole dont il a besoin pour être entendu et pour parler. Je suis constamment posé en face de lui en tant que tel. Et cela, pour moi, est le signe qu'il y a en lui un désir qu'il ignore. Il vient me voir parce qu'il a des tics, parce qu'il souffre, etc. Et en fait, c'est son désir qui veut parler et il ne le sait pas encore.
Devant cette souffrance, vous êtes-il arrivé de vous révolter, par exemple?
Devant la souffrance des gens qui viennent me voir, non, car si je m'y révoltais, ça voudrait dire que je prends leur place et que par conséquent je le déloge de l'endroit même où j'ai à les entendre. Mais ce qui est certain, c'est que tout analyste, je crois, est constitué dans son désir d'être analyste par ce rapport à la souffrance en tant qu'il peut tenir en face de lui pour ce qu'elle signifie et non plus pour l'imaginaire dans lequel elle submerge l'homme. Je crois que si les analystes n'aiment pas beaucoup parler d'eux, mais si on faisait parler des analystes à un niveau assez profond, il y a toujours ce passage à travers cette division et cette souffrance ultime qui consiste à, d'une certaine manière, à, comment dire, à cette division profonde du sujet qui fait qu'il ne se cherche plus dans ce qu'il imagine de lui, dans un espèce de dédoublement incessant par rapport à lui, ce qui est une certaine forme de psychologie, ce qui est une certaine forme d'introspection, qui n'est pas la psychanalyse. N'est-ce pas ? Et être en analyse, c'est faire l'expérience de cette division de soi par laquelle advient, n'est-ce pas, quelque chose qui vous constitue comme sujet et non plus comme le méchant ou le bon, le souffrant ou le non-souffrant que vous imaginez être.
Docteur Nock, vous l'avez dit, que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Est-ce que les psychanalystes ont une tendance à maintenir les gens dans un état de...
S'ils sont vraiment analystes, certainement pas. Certainement pas. Ça n'a aucun sens.
L'analyse débouche sur un départ, finalement.
Oui, tout à fait.
Sur une rupture.
Tout à fait. Tout à fait. Elle débouche sur le fait que celui qui est venu vous voir en se croyant extraordinaire à cause de ses symptômes repart dans le monde en étant un sujet comme un autre.
Un sujet comme un autre. Qui est capable de s'accepter lui-même, d'être libre.
Alors, qui a toujours à tenir debout, au nom de la parole qui le tient debout, au milieu de ce combat, qui est le combat de tous et de chacun.
Donc, d'une certaine façon, il vous quitte, il vous rejette.
Rejeter n'est pas, dans certains cas c'est possible, mais rejeter n'est pas forcément le lot. Je dirais plutôt, il me laisse tomber. Mm-hmm. Il me laisse tomber à la fois comme le lieu qui a été la projection de tout son imaginaire qui l'empêchait de vivre, et comme, parce que tout ça est tombé, comme la possibilité de s'adresser à quelqu'un, à un autre, et donc à lui-même, à travers tout ce fatras imaginaire qui est déconstruit.
Alors, est-ce qu'il vous arrive d'établir une autre relation avec vos malades, de devenir des amis, par exemple
Cela est possible, mais jamais immédiatement après une analyse. Mmh. Je veux dire, c'est l'occasion de la vie qui, une fois... Vous savez, je ne suis analyste que dans mon fauteuil, nulle part ailleurs. Donc si la vie fait qu'il advient que je rencontre des gens qui ont été sur mon divan, ça s'oublie. Il y a une espèce de faculté qui est celle de l'analyste, n'est-ce pas? Quand un analysant vous rencontre dans la rue, il croit toujours, à cause de sa projection imaginaire, que...
vous êtes le docteur.
Que vous êtes le docteur. Mais en fait... Non, il s'agit d'un sujet comme un autre avec lequel, selon les aléas des rapports sociaux, vous entrez en rapport. Mmh.
Mais encore une fois, n'est-ce pas, devant cette souffrance, devant cette détresse même probablement de certains êtres, n'est-ce pas, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de dire, mais pourquoi, n'est-ce pas, en est-il ainsi? Pourquoi n'en est-il pas autrement? Pourquoi la folie est-elle donnée à certains? Pourquoi la normalité est donnée à d'autres? Qu'est-ce que c'est que ce partage, n'est-ce pas, qui fait que les uns sont exclus et que les autres, finalement, fonctionnent relativement bien?
Oui, ça, c'est ce qu'on imagine. Ce qui m'a permis, personnellement, d'entendre la souffrance sans en être submergé, c'est que, d'une certaine manière, j'ai fait cette expérience et que j'en ai été délivré.
Vous avez fait expérience de la souffrance?
Oui, et que... entendre la souffrance de quelqu'un, ce n'est pas le comprendre jusqu'à être submergé dans sa propre souffrance, comme on le fait quand on est imprudent, n'est-ce pas? C'est pouvoir l'entendre sans être touché par elle. C'est très difficile à dire, mais c'est très vrai. C'est très vrai. C'est-à-dire pouvoir... Vous ne pouvez écouter quelqu'un que dans la mesure où ce qui le détruit ne vous détruit pas. Et donc vous faites appel en lui à... quelque chose à un autre qu'il ignore.
Qu'est-ce que c'est que cet autre-là?
Cet autre, c'est sur le plan de l'anthropologie, disons, analytique. C'est le sujet dont je parle et dont personne ne sait ce qu'il est. Mais c'est le sujet de la parole, le fait que vous parlez et que vous parlez de ce qui parle en vous et de ce que ça parle. Et ça parle d'un autre comme étant vous-même. C'est ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas réductible à l'image que vous avez de vous-même. Je crois que la meilleure, paradoxalement, mais la meilleure compréhension qu'on peut avoir de ce processus, c'est, vous savez, ce qu'il est dit dans la Bible, dans le troisième livre de la Genèse, il est dit, le troisième chapitre, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Ça veut dire, quoi qu'on pense de Dieu, n'est-ce pas, pourvu qu'on sache que c'est l'innommable, l'irreprésentable, celui auquel on ne peut pas avoir accès par le biais de l'imagination, du discours, de la représentation. Bon. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Ça veut dire essentiellement que l'homme, depuis qu'il existe et qu'il parle, fait l'expérience, parce qu'il parle, qu'il n'est pas créé à sa propre image. Qu'il ne se reconnaît pas et qu'il ne se reconnaîtra jamais dans l'image qu'il a de lui-même. Il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il est créé à l'image d'aucune image. Mais paradoxalement, il est créé à l'image de ce qui parle en lui. Alors, être créé à l'image d'une parole, vous voyez bien que, d'une certaine manière, c'est une espèce de contradiction ultime. Si vous voulez, dans un autre registre... que vous vous appeliez Marcel Brisebois, n'est-ce pas, signifie que toutes les images que j'ai de vous, j'en suis délogé par votre nom. Parce que votre nom, c'est l'effet d'une parole qui vous nomme en vous-même, où vous reconnaissez le lieu non représentable, à partir duquel... Vous avez toutes les représentations de vous-même, et moi j'ai toutes les représentations de vous-même, mais qui restent irreprésentables.
Je suis toujours au-delà de ce qu'on pense de moi. Je n'accepte pas qu'on dise vous êtes ceci, vous êtes cela.
Non, ça n'est pas. Vous êtes toujours au-delà de ce qu'on pense de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas. Vous acceptez.
Mais je ne veux pas être réduit à ça.
Dans le champ où ça se développe, vous acceptez de vous reconnaître dans une certaine image de vous et en même temps, vous n'êtes pas cette image. C'est ce que Lacan a développé dans son fameux stade du miroir. Un enfant qui se regarde dans un miroir. Il est à la fois pris dans un mouvement contradictoire, n'est-ce pas ? Il est pris dans cette image où il se reconnaît dans son corps, et en même temps, il fait l'expérience au prix déjà d'une angoisse qui le divise, qu'il n'est pas cette image, et c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers l'autre, celui qu'il tient ou celui qu'il appelle, et qu'il se reconnaît dans la parole qui le nomme, et qui laisse tomber l'image de lui-même.
Vous avez parlé de Dieu comme étant l'innommable, mais... Nous savons de vous aussi que vous n'êtes pas que psychanalyste, vous êtes prêtre. Cet innommable a donc un nom pour vous.
Eh bien, il a le nom de Dieu.
Il a le nom de Jésus-Christ.
Ah, médiatisé en Jésus-Christ, tout à fait. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est le premier Adam, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est la parfaite image de Dieu, parce qu'une image n'est parfaite que dans la mesure où elle n'arrête pas à elle-même, mais où elle renvoie à ce qui la fonde, c'est-à-dire à la parole du Père. Pour ce qui est de l'Évangile, n'est-ce pas ? Pour ce qui est du Christ.
Mais comment, enfin si c'est possible de vous poser cette question très, très personnelle, vous avez dit que les psychanalystes n'aiment pas parler d'eux-mêmes, mais comment ça s'articule en vous justement, c'est à la fois cette expérience du psychanalyste qui est bien là dans sa chaise, et vous dites en dehors de votre chaise, vous n'êtes plus psychanalyste, n'est-ce pas ? Et cette autre expérience, qui peut être l'expérience de la foi, l'expérience de Jésus-Christ.
Ce n'est pas deux expériences différentes. Vous savez, ça peut être mal entendu, mais je crois qu'on ne devient analyste quand on ne peut pas faire autrement. C'est quand on ne peut pas faire autrement, c'est quand on est porté par quelque chose en vous qui vous permet de tenir droit en face de la souffrance qu'on peut l'écouter. Et pareillement, ce n'est pas... à cause de ce qu'on pense de soi. Bien sûr, on est déterminé par toute une histoire, mais on devient prêtre parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, devenir prêtre, bien sûr, ça se lit, ça se relit tout à fait dans ce qu'on appelle une vocation, justement, c'est-à-dire quelque chose où la parole est en jeu. C'est-à-dire que vous pouvez très bien comprendre, n'est-ce pas, comment vous êtes déterminé historiquement à devenir prêtre. N'est-ce pas ? Par tous les signifiants qui ont joué dans votre vie, vous pouvez très très bien comprendre cette détermination. N'est-ce pas ? Et d'une certaine manière, c'est le travail que tout homme et que tout prêtre a à faire. Je dis tout homme parce qu'un homme peut très bien comprendre, 10 ans après son mariage, comment il a été amené à épouser telle femme et pas telle autre. C'est qu'il a été déterminé dans ses épousailles. Il a été déterminé. Et en même temps, et c'est ça qui est libérant, il reconnaîtra qu'à travers cette chaîne imaginaire et cette chaîne signifiante qui peut se déterminer, dont on peut dire quelque chose, à travers quelque chose, il s'est dit pour lui une parole qui le constitue là où il doit être.
Et la parole qui vous constitue là où vous devez être, quelle est-elle ?
Ben, en tant que j'ai la foi, c'est évidemment la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, en tant que constamment, elle me fait souffrir. Elle me fait souffrir en ce sens qu'il faut se battre avec Dieu. Il faut se battre parce qu'on préfère son imaginaire à Dieu. Mais qu'en définitive, je me souviens de ma propre analyse et je me souviens avoir dit un jour à mon analyste, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce dont je suis sûr, c'est que Dieu m'a sauvé. Je serais mort sans Dieu. Je serais mort parce que j'aurais été submergé par l'imaginaire de la souffrance de mes parents qui m'empêchait de vivre. Et ça a été une espèce de lieu symbolique, de parole, qui m'a délivré de l'endroit où je m'enfermais sans le savoir.
Pour vous, Dieu, c'est à la fois le lieu de la liberté, si je comprends bien. Enfin, si on veut dire le lieu de... C'est ce qui libère, mais en même temps ce qui vous déchire.
Ah ben évidemment, comme la parole. Bernanos a des choses formidables là-dessus. Il dit, celui qui croit En substance, il dit, celui qui croit accéder à la vérité sans souffrir, c'est un menteur. La vérité déchire. La vérité, c'est ce contre quoi, imaginairement, nous luttons constamment.
Donc la foi ne vous rassure pas.
La foi, elle me met au cœur du combat humain. Avoir la foi, ce n'est pas être un homme qui a des certitudes qui l'empêcheraient de devenir un homme. Ce serait la négation même, d'ailleurs, de ce qui nous est dit dans l'incarnation et dans la révélation. La foi, c'est la possibilité de tenir debout comme un homme, y compris et jusque dans la mort.
Pourquoi la mort ?
Parce qu'elle est ce qui nous advient avec une sûreté absolument incroyable. La seule chose que nous sachions avec certitude, c'est que nous allons mourir. Et la mort, il y a tout un imaginaire de la mort mais qui nous fait peur. Mais ce n'est pas ça qui est important. La mort, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous sépare. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas imaginer ce qu'est la mort. La mort est inimaginable. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, nul ne peut voir Dieu sans mourir, n'est-ce pas ? C'est ça que ça veut dire.
Mais est-ce que la foi ne vous permet pas justement d'escamoter la mort ? Puisque vous savez que la foi, c'est la foi à la résurrection, c'est la foi. Pas,
c'est ce qu'on dit et ce qu'on répète de manière un petit peu, je crois, imaginaire et infantile. C'est ce qui vous met au cœur de la mort. Et de la naissance aussi. Ça. Mais ça ne peut pas être. Ou alors, si c'était ça, j'ai rien à en foutre de cette foi. Vous comprenez ?
Denis Vache, je vous remercie.